Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir et le privilège d'interviewer Michael Lonsdale pour un spectacle donné actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse qui s'intitule Lettre à un jeune poète. J'aimerais savoir, Michael, pourquoi ce choix de Lettre à un jeune poète, de vos émissions radio au Maroc quand vous étiez tout jeune, jusqu'à ce magnifique film que vous avez interprété aux côtés de Pio Marmaille, qui s'intitulait Maestro. Il semble que vous soyez tenté par cette idée de transmission au jeune public, comme aux jeunes artistes.
Ben oui, quand ça se présente, c'était le cas pour Maestro, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je n'ai pas essayé de copier du tout l'auteur qui est mort en cours de rédaction. Comment il s'appelait le metteur en scène, le réalisateur?
Romer.
Romer. Je n'ai pas essayé de le copier. J'ai pris le personnage en charge, quoi.
Bien sûr. Et alors, pourquoi ce choix de l'être un jeune poète?
Ah ben parce que j'aime beaucoup Rilke, un grand poète, et que j'avais monté un spectacle qui s'appelait Lettre à une musicienne. C'est une pianiste qui m'avait écrit d'Italie pour lui dire son admiration, et puis il a répondu, et puis ils ont commencé toute une correspondance. C'est avec un pianiste, oui, c'est un autre. Et voilà, parce que je trouve les poètes, quoi.
Très bien. Alors, on sent quand même une grande tendresse qui émane de ces échanges épistolaires entre donc un jeune poète qui ne se dit pas encore poète, si je comprends bien le propos, et qui vient chercher quelque part auprès de Rilke une forme de caution et une forme de soutien à persévérer dans cette activité justement
Oui,
de création artistique.
mais vous savez que les lettres que nous lisons, c'est la même lettre, mais non, qu'on a partagée en deux. Vous l'avez vu, le spectacle, non?
Pas encore.
Ah bon, vous venez ce soir?
Oui, je viens ce soir.
Bon. Alors oui, donc ça fait un peu différent, quoi, mais c'est une drôle d'idée. Et
C'est cette tendresse entre justement cet artiste et son idole qui, quelque part, vous a séduit et vous a invité à l'interpréter sur
ben
scène.
oui, le moment où il dit qu'il aime bien le dernier poème qu'il a reçu, mais enfin, le reste du temps, on passe notre temps à lui mettre en garde de toutes sortes de choses, quoi.
Sur la vie d'artiste
Oui.
et les difficultés que ça connote.
Voilà.
Absolument. Alors parlez-nous un petit peu du spectacle. Quels sont les partis pris de la mise en scène, de la scénographie? Je crois que c'est quelque chose de très dépouillé, très pur.
Il n'y en a pas, nous sommes assis tous les deux
D'accord.
avec un micro et nous lisons. Donc il n'y a pas, enfin, Pierre se déplace une fois ou deux. Bon, je puis on a la musique qui nous accompagne. On avait au départ un merveilleux accordéoniste qui a inventé une espèce de présence, une atmosphère musicale très intéressante. Mais maintenant, ce sont trois joueuse de comment s'appelle les grands violoncelles
Violoncelliste,
contrebasse, oui.
contrebassiste.
Alors toutes les trois, elles avaient un petit peu de mal à entrer dans l'improvisation parce qu'elles voulaient jouer des choses qu'elles connaissaient, mais ça s'affine chaque fois. Et maintenant, il y en a une surtout qui a bien compris. Les deux autres, c'est plus difficile.
Et donc, c'est toujours une improvisation qui donc change chaque soir.
Ce qu'elles font,
Oui.
oui. Non, il y en a une, c'est toujours la même chose,
D'accord.
oui.
Et la musique, c'est pour symboliser un peu aussi la douceur de cette rencontre entre Rilke et
Oh,
ce.
ben, c'est pour faire quand même un climat, une atmosphère où on s'arrête, quoi, un moment pour entendre de la belle musique, en principe, qui devrait faire transparaître ce qui travaille le poète, le jeune
Bien sûr.
poète.
Alors, Duras et Beckett ont été entre autres parmi vos proches.
Oui.
L'un n'abordait jamais très directement la question de Dieu, même si elle avouait que finalement toute son œuvre était une forme de quête qui ne disait pas son nom.
Bon, elle avait cette célèbre phrase, « Je crois pas en Dieu, mais j'en parle tout le temps ».
C'est ça.
Mais oui, parce que chez elle, il y a une espèce de farouche recherche de l'amour, l'amour tellement fort, qui est presque plus de ce monde, je veux dire. Et toutes les histoires sont très, très axées sur ce besoin d'amour très fort qu'elle a vécu des fois avec certains hommes, mais pas toujours. Mais ces personnages, en tout cas, sont toujours à la recherche. Et surtout le vice-consul, que j'ai eu le grand honneur de jouer dans India Song, qui hurle son amour pour cette femme d'ambassadeur. Et voilà. Et Beckett, lui, alors, c'est complètement différent. Ça m'a frappé quand il est mort, j'ai relu ses livres. Et je me suis aperçu que cet homme ne s'occupe que des pauvres. Les pauvres, les rejetés, les malades, les fous, les gens dont on ne veut plus, qu'on met dans une poubelle, enfin, avec un certain humour, sinon ce serait sinistre. Mais c'est un homme d'une compassion pour l'humanité incroyable. Et puis dans la vie, c'était un homme d'une générosité avec ses amis. L'amitié pour lui, c'était très important.
Donc vous y voyez sans doute une symbolique christique dans son
œuvre. Oui, parce que vraiment, le bienfait qu'il a fait, l'argent qu'il a pu donner, c'est vrai qu'il a gagné des millions avec le prix Nobel, hein, mais il a sorti beaucoup d'amis de situations délicates et tout ça, et puis s'est occupé des gens malades, des amis malades. Oui, c'était un homme généreux.
Et c'est entre vous trois, c'est justement ce rapport à Dieu qui vous a rapproché, qui vous a donné envie de mieux vous connaître,
Et bon,
avec Duras et Beckett.
Ah non, avec Marguerite, on n'en parlait pas jamais, non.
C'était un sujet qu'elle n'abordait pas.
Bon, non. Moi, j'étais très paresseux. Enfin, si, j'ai compris le jour où elle a lu les prophètes. Elle a lu Isaïe et comment s'appelle l'autre, le grand? Parce que j'ai remarqué que le Christ avait finalement un scénario à accomplir un jour. Et tout ce qui est annoncé, il y avait 2000 ans que le rideau du temple allait se déchirer, que ses os ne seraient pas comptés. Tout ça, il devait l'incarner.
Donc les prophètes avaient finalement rédigé un scénario qui s'est...
Ça l'avait impacté parce que c'était écrit.
C'est ça.
Et donc pour elle, ce qui est écrit est sacré. Oui, c'est vraiment son Dieu, c'est l'écriture. Mais oui, moi, avec Marguerite, on avait un rapport très tendre, on riait beaucoup. Et on n'abordait surtout pas la politique ni le féminisme. Parce que là, je me retirais tranquillement et... Et je la laissais délirer. Ah oui, c'est vraiment des gens merveilleux, ça.
Qui ont accompagné votre chemin.
Ah oui, comment.
Alors, pour rester sur cette dimension-là, qui est pour moi aussi très présente, quelque part, dans l'œuvre de Rilke, le nom de la rose, des hommes et des dieux, on ne compte plus les créations parmi lesquelles... il y a une dimension religieuse,
oui,
évidente.
J'ai eu à faire toute une liste de religieux, mais c'est vraiment pas moi qui l'ai cherché.
On est venu vous chercher pour ça?
Oui, la première fois que j'ai été avec des copains en sortant du cours, on a monté une pièce d'Oscar Wilde, L'important d'être Ernest, et j'ai joué le rôle d'un pasteur. Et puis après, avec Louis Malle, un deuxième... religieux, maître d'école, oui. Et puis ensuite, ben, ça a monté de grade. Ensuite, j'ai eu...
Votre expérience d'acteur vous valait de monter dans la hiérarchie catholique, c'est ça?
J'en ai fait une bonne douzaine. J'avais un prêtre à la campagne en état de révolte totale contre la société. Bon, puis après, c'est monté avec Orson Welles. Mmh. J'ai joué un pasteur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après Le nom de la rose, oui, bien sûr. J'étais le père abbé du monastère. Et puis, en Italie, j'ai joué aussi les villages de carton, là, avec Olmi. Mm-hmm. Je jouais un prêtre en détresse dans une église où plus personne ne vient. Et puis, les hommes et des dieux, voilà. Et j'en oublie quelques-uns. J'ai monté en grade, oui, j'ai été cardinal, j'étais évêque, et j'étais pape. Et Dieu le Père, mais la voix seulement.
La voix seulement de Dieu le Père. Et alors, quelque part, même si c'est plutôt, on va dire, les créateurs qui sont venus à vous pour vous proposer ces rôles, en lien avec la dimension religieuse, oui, est-ce que vous avez le sentiment que ça a conforté votre foi, ça a pu participer à justement une réflexion
de les incarner quand ils étaient intéressants, oui.
Au point que ça justement vienne conforter ou vous questionner votre foi?
Mais non, pas du tout. Vous savez, nous faisons un métier qui consiste à jouer. Mm-hmm. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il faut pas s'imaginer des trucs à l'argent. Nous continuons à vivre ce qu'on a voulu quand on était enfant. Les enfants, dès le
plus jeune âge.
Plus jeune âge, on a besoin d'une histoire qu'on leur raconte le soir avant de dormir. Pourquoi? Ils ont besoin d'un frisson, d'une magie, de quelque chose, on ne sait pas, qui peut pas faire peur. Et c'est très précieux, ça. Et quand c'est une famille où les parents peuvent faire ça, mais dans les familles où il n'y a pas ça, c'est un drame, parce que plus tard, il y aura quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas reçu, et qui est en eux. Le besoin qu'on vous raconte une belle histoire.
Et ce travail d'artiste consiste finalement à poursuivre ce...
Ben oui, à jouer. Parce que moi, j'étais nul depuis pendant la guerre au Maroc, dans des situations où je n'ai pas pu faire d'études, puis j'étais pas doué. C'était une catastrophe, là, les mathématiques, tout ça, je comprenais rien, je pleurais. Il n'y avait que le jeu qui m'intéressait. Alors quand j'ai vu les premiers films américains, tout ça, pendant la guerre, les grands films de John Ford, ces productions américaines merveilleuses avec des acteurs formidables. Alors, j'étais là à dire, oh, j'aimerais bien faire ça un jour.
Et c'était aussi une fascination d'enfant, finalement.
Ah, complètement, oui, oui. Alors ça a commencé, il y a un copain j'ai habité Rabat, où il y avait une radio, et un copain me dit, tu sais, il cherche des enfants pour chanter et jouer des pièces de théâtre. Enfin, tu devrais venir. Alors évidemment, je suis allé et je suis tombé sur une adorable dame qui était en train de monter Blanche-Neige et les Sept Nains. Et elle m'a donné le rôle de Hatchoum. Ça a été mon premier rôle.
Vous étiez tout jeune?
Ben oui, qu'est-ce que j'avais, 11 ans, quelque chose comme
ça. Ah oui.
Oui, oui. Alors après ça, j'aurais pas raté ça pour rien au monde, parce que on a joué alors des choses plus sérieuses, La Petite Sirène d'Anderson, enfin des choses poétiques. Et puis j'étais content. Et puis surtout, on s'amusait pendant une heure dans l'auditorium après, pour jouer à des jeux. Oui. Alors, arrivé à Paris, il fallait donc... parce que j'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, j'ai vécu 10 ans au Maroc. Et mes parents sont séparés, alors je suis venu dans la famille française. Mmh. Et là, bien sûr, je me suis précipité à la Cinémathèque, qui était rue... La première époque, c'était dans le 8e arrondissement, oui. Une salle à peu près le double d'ici. On s'entassait là-dedans pour voir tous les chefs-d'œuvre américains, russes. Et chaque fois, j'étais emballé. Et je n'osais pas aller dans un cours, j'étais tellement timide. Hein. Comment est-ce qu'on dit, coincé, quoi. Alors un jour, dans un journal, il y a eu une petite annonce, voulez-vous savoir si vous êtes comédien? Alors moi, j'ai mordu à l'hameçon. Alors, pendant 3 jours, je suis tombé sur une école qui s'appelait la PDJ2EB ou quelque chose comme ça. Tiens, oublié le nom, c'est drôle. Non, c'était par le jeu dramatique. Oui, enfin bon, ça s'est avéré être une crapule, le type. Parce que j'ai mordu l'hameçon, il m'a dit oui. Vous avez des dons, mais il faut beaucoup travailler. Après avoir fait de la poésie, jouer, improviser une scène, etc. Et puis au cours, lui, le premier jour où on joue avec lui, il nous dit, voilà, vous êtes dans un camp de concentration, et vous allez à la recherche de votre enfant mort. Alors, personne des jeunes qui étaient là avait très, très envie, sauf une fille qui a dit, moi, je veux bien essayer. Bon, on vous écoute. Alors, elle a commencé à errer comme ça, et puis tout d'un coup, elle s'est mise à hurler, elle s'est roulée par terre en poussant des hurlements. C'était pas, on ne donne pas un thème comme ça à un débutant. Tout ce qui est folie, larmes, tout ça, c'est la deuxième année. Et on commence par des petites choses très... mais délicate, gentille, pleine de vie,
mais plus, pas la plus mort, accessible. Voilà. Et moins...
Alors qu'est-ce qui s'était passé dans la famille? Elle s'est roulée par terre en hurlant. Alors on a appelé les médecins, tout ça. Alors je me suis dit, oh là là, si c'est ça le théâtre, moi non, alors c'est pas possible. Mais il était fou, le bonhomme. Alors moi, ça m'a donné. J'ai quitté le cours et je commençais un jour, me convertissais au christianisme. Alors je suis allé voir l'aumônier des artistes pour demander où je peux aller. Il m'a dit d'aller au cours de Madame Balachova. Alors là, ça a été le paradis. Cette femme était amoureuse de ses élèves, intelligente. C'était toute la... Ça venait de Stanislavski, Dulin, tout ce monde-là, ces gens avec des spectacles très intérieurs, dramatiques souvent, mais je veux dire beaux. Mais Stanislavski, c'était un génie, absolument. C'est lui qui a créé, il est le fondateur de l'Actor Studio à New York. Mm-hmm. Donc, jouer, c'est pas simplement prendre un rôle, et c'est chercher, et puis aller chercher dans des choses.
S'imprégner d'une réalité aussi.
Oui. Alors, les belles pièces de Tchekhov, ça aide beaucoup, parce que c'est souvent le désarroi de beaucoup de gens. Qui aime quelqu'un et ce quelqu'un aime quelqu'un d'autre, et puis alors c'est le malheur. Et voilà, alors chez elle, elle est arrivée à me sortir de mes gonds parce que j'étais timide. Moi je passais toujours Fedot, Tchekhov, des choses gentilles. Et un jour elle m'a dit, je voudrais bien vous voir vous énerver un peu. M'énerver? J'ai dit, mais pourquoi? Eh bien, comme ça, que vous jouez des choses gentilles, sympathiques, j'aimerais vous voir un peu... Bon, apprenez-moi la première scène du Misanthrope. Alceste qui bougonne dans son coin parce que Célimène l'a envoyé balader. Son ami Philinte arrive. Qu'est-ce donc, avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, dites-moi. Non, laissez-moi, vous dis-je. Alors, je passe ça, puis ça donnait rien, parce qu'elle me dit, ben oui, mais... C'est bien mignon, mais je voudrais sentir que vous vous énervez, là, parce que vous êtes contrarié. Bon, alors, ça montait comme ça d'un cran. J'ai essayé, ça donnait rien. Alors, oui, il est plus qu'énervé, et il est vraiment furieux. Ça montait encore, il est fou de rage. Alors, moi, je commençais à me sentir très mal. Je ne savais pas quoi faire, parce que la violence... Alors, elle a pris ce qu'il fallait faire avec moi. Elle m'a menacé. Devant tout le monde, elle m'a dit, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. J'ai cru que j'allais tomber. Je suis rentré chez moi, je me suis allongé pendant 3 heures en me disant, c'est foutu, ça y est. Et pas du tout, parce que le cours suivant, elle me prend dans un coin, elle me dit, vous savez, c'est pas pour vous embêter que je fais ça, mais vous faites un métier où vous devez pouvoir représenter toute la gamme des sentiments humains, du plus le plus mauvais, le plus terrible, le plus horrible, jusqu'à la plus grande sainteté. Il faut être prêt à pouvoir tout jouer. Parce que c'est vrai qu'on avait encore beaucoup des emplois. Il y avait les jeunes premiers blonds, c'était Hamlet. Antigone, c'était toujours une fille noire. Ou
des stéréotypes.
Oui, complètement. Mm-hmm. Alors après, ça a commencé à se déglinguer tout ce système. Et on a vu des Hamlet qui mesuraient 2 mètres et des Antigone qui... Tania était vraiment...
Et enfin des contre-emplois, c'est ce que vous nous dites.
Oui. Et puis il y avait le metteur en scène avec Jean-Marie Serrault. Et il m'a dit, je veux que tu joues Hamlet. J'ai dit, mais je ne sais pas le personnage, écoute. Alors on n'a pas fait finalement, mais on a fait Prospero dans la tempête, oui. Voilà, alors donc, le jour où elle a ouvert un cours d'improvisation, alors là j'ai compris que je pouvais inventer. À partir de là, j'ai commencé vraiment à aimer ça.
Et vous en êtes jamais départi?
Non. Oh non, j'ai eu de la chance de commencer à travailler. Elle m'a dit, vous ne ferez rien de bien important avant 30 ans, parce qu'on ne peut pas vous situer. Vous n'avez pas de type spécial, vous êtes un peu anglais, un peu belge et un peu suisse. Je ne comprenais pas ce que ça
sous-entendait. Oui.
Oui, parce que j'étais lent, comme les Suisses, et... enfin bon, j'aurais à dire sur les Belges. Mais voilà. Alors peu à peu, dans ma vie spirituelle, j'ai été très accaparé par des beaux textes comme Claudel, tout ça. Et j'ai eu la chance de travailler sans arrêt avec des gens de plus en plus bien, enfin de plus en plus géniaux. Oui. Alors ce besoin, j'ai essayé de m'analyser un peu. Je me suis dit, les enfants qui sont pas des parents.
Sous X.
Oui, on m'a caché quand j'étais bébé. Mm-hmm. Mon grand-père français, qui lui-même avait un enfant. Hein, comment est-ce qu'on dit? Il y a un terme.
Naturel.
Non, il y a un mot. Oui, je ne sais plus. Ça va revenir. Oui, c'est-à-dire hors mariage.
Adultère,
hein, c'est ça. J'étais un enfant adultère, hein, qu'on a caché pendant un an ou deux. Parce qu'au jour, il a fallu dire à mon grand-père français, qui était lui-même un enfant adultère, hein, que j'existais. Parce que ma mère dépendait de lui financièrement. Évidemment, il a dit, bon, je vous donnerai de l'argent, mais mon père est quelqu'un que ma mère a connu. Elle s'est mariée avec un officier de la marine anglaise, et puis c'était pas ça, elle a eu un enfant, Gérald. Et puis ce mari était tout le temps parti sur les bateaux. Et il a été nommé ensuite à l'amirauté à Londres. Alors là, c'était plus stable, et il est parti un jour à un match de foot. Puis à côté de lui, il y avait un monsieur, un bonhomme qui poussait les mêmes cris d'encouragement pour les équipes favorites, à tel point que, bon, comme on fait en Angleterre, on se parle un peu, « Come and have a drink, venez boire un verre à la maison. » Alors il a amené ce monsieur, et il n'avait pas la clé, alors il a sonné, et maman m'a dit, quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc, parce que mon père était un très bel homme, et elle n'était pas heureuse avec son mari marin, là. À tel point qu'elle est partie avec lui au bout de 3 mois. Alors là, et c'est là que j'ai été conçu, et puis que je suis né, sans parler au grand-père français, parce que...
une telle naissance ne pouvait que vous amener à une vie un peu romanesque.
Et... Alors je pensais que plus tard, parce que je me suis dit, pourquoi tu veux être comédien? Peut-être que tu as besoin qu'on t'aime. Non, qu'on te reconnaisse, oui. Alors en effet, quand on joue et puis que les gens applaudissent, tout ça, on se sent heureux parce que on se dit, je fais quelque chose qui vaut la peine. Mm-hmm. J'avais sans doute besoin de ça, puis j'avais besoin de continuer à jouer. Parce que moi, j'invente toujours la moitié de mes rôles, hein. J'improvise beaucoup. C'est ce que j'ai fait dans Les Hommes et les Dieux. Oui, C'était la deuxième région, la troisième, je ne sais plus, j'ai oublié.
C'est un peu votre signature, cette,
oui,
cette
oui.
volonté d'improviser toujours sur, le, sur les rôles
oui,
que vous
oui,
interprétez.
Parce que c'est formidable, il se passe des choses incroyables en vous qui surgissent. Et grâce à l'improvisation, j'ai pu me libérer de... J'ai pu jouer le rôle du vice-consul, là, qui hurle et pleure pendant 3 heures son amour pour la femme de l'ambassadeur, qui était en plus Delphine Seyrig, une femme que je trouvais, qui était pour moi idéale. C'était un grand moment dans ma vie. Eh oui. Bon.
Merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. On vous retrouve tout à l'heure sur scène et encore quelques semaines au Théâtre de Poche Montparnasse pour ce spectacle « Lettre à un jeune poète ». Vous retrouverez toutes les informations sur l'article consacré à ce spectacle sur notre site itartbag.com. Merci infiniment, Michael Lonsdale.
You're welcome.
À bientôt. Merci beaucoup.
Mais j'avoue que j'ai un peu raconté ces histoires déjà dans plusieurs livres.